Time 2021. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Martine, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs.
All over the world.
Voilà, d'ici et d'ailleurs.
Et puis bonjour à notre invité du jour.
Eh bien Gérard qui est venu nous voir. Gérard, bonjour, tout content d'être dans le studio.
Oui.
Il écoute une émission et il voit comment on la met en boîte cette émission. On met rien en boîte, personne en boîte sauf les émissions.
Et il voit nos bobines.
Et il voit nos bobines, tout à fait.
Alors aujourd'hui, l'émission est consacrée à
Jimmy Noon.
Wow.
Donc on va entendre un fameux clarinettiste. Et j'ai sous-titré cette émission « A Smooth and Swinging Clarinet » parce que ça définit bien le style de Jimmy Noon. C'était un fameux clarinettiste de style New Orleans. C'est un des plus grands avec Johnny Dodds. Mais entre les deux, Jimmy, c'est celui qui joue boisé et legato quand Johnny Dodds a un style plus accrocheur, plus âpre, même si tous les deux pratiquent avec talent le contrepoint. C'est-à-dire, pour les jazzmen, ils ne font pas du contrepoint, ça c'est chez Bach. Eux, ils développent un accompagnement volubile derrière la ligne mélodique, derrière la trompette notamment. Et on ne peut pas les confondre, Jimmy et Johnny, parce qu'ils ont un style bien différent. Et pour en être bien sûr, je ferai un de ces jours une émission sur Johnny Dodds. Comme ça, on aura les deux faces des deux grands clarinettistes de la Nouvelle-Orléans. Jimmy Noon est né ben justement très près de la Nouvelle-Orléans le 23 avril 1895 dans une ferme située à une dizaine de kilomètres au nord de cette ville. Et sa famille va s'installer à la Nouvelle-Orléans dans la cité du Croissant à partir de 1910. Donc Jimmy Noon est bien un enfant de la Nouvelle-Orléans, en tout cas c'est un enfant de la Louisiane. Il a entamé sa carrière professionnelle dès 1913 avec Freddie Keppard. Et il est mort jeune tout de même, le 19 avril 1944, donc il n'avait pas 50 ans. Il était à Los Angeles et il a une crise cardiaque alors qu'il jouait à ce moment-là. On verra d'ailleurs à la fin, ou plutôt on entendra, un des derniers morceaux qu'il a enregistré justement à Los Angeles. Jimmy a joué avec des as de la musique de jazz. Il a aussi très vite monté ses propres orchestres, orchestre pour la danse, avec un répertoire de morceaux classiques du style New Orleans, mais aussi un répertoire d'air à la mode. Et puis beaucoup de chanteuses, de chanteurs, de parties vocales. Bon, il suivait la mode, l'air du temps et aussi ce que les compagnies lui disaient d'enregistrer et de jouer. Mais en tout cas, c'est un des prototypes de la musique louisianaise de l'école créole. Et on va le constater dans l'émission d'aujourd'hui. Le tout premier enregistrement de Jimmy Noon est déjà fameux. L'enregistrement, mais Jimmy Noon aussi est fameux.
Les deux.
Et les deux, évidemment. Et il faut souligner tout de même que Jimmy avait commencé à jouer 6 ans auparavant dans l'orchestre de Freddie Keppard, je l'ai dit. On va écouter maintenant un titre eh bien, qui veut dire tout simplement « joue ce truc ». Donc je vais lui dire « Jimmy, play that thing » et on est à Chicago en septembre 1923.
Thank you.
c'était l'orchestre du batteur Holly Powers et il y avait un sacré cornettiste qu'on entendait très bien. Il s'agissait de Tommy Lanier au banjo, celui qui marquait le tempo et qui assurait le swing aussi de l'orchestre avec les autres. C'était John Bassley, moins connu évidemment. Jimmy Noon, il est déjà tout à fait dans son style et il est tout de même au début de sa carrière discographique. Alors je vais vous faire remarquer que c'est un petit peu assourdi, c'est un vieux disque hein, de 1933, c'est une petite compagnie, donc peut-être pas techniquement la plus au point, c'était la compagnie Claxtonola, que personne ne connaît évidemment, moi non plus, mais je sais que c'est celle-là. On va écouter maintenant un morceau de la même année, mais pris à partir d'un 33 tours 30 cm, donc un disque vinyle,
un vrai,
pas un 78 tours, mais tout de même un 33 tours 30 cm. On va se rendre compte qu'il y a plus de bruit de surface, mais la musique est beaucoup moins étouffée, parce qu'avec les CD, on essaye de tout effacer, tous les bruits de fond, les bruits parasites, et puis on efface une partie de la musique,
la surface.
Évidemment. Voilà, on efface un peu de tout. Là, on va entendre, ça sonne tout à fait différemment. On est donc le mois suivant, et Jimmy Noon se trouve dans les studios Columbia, donc une bonne et grande compagnie qui enregistre à l'époque, et il est au sein de la formation de King Oliver, et à côté du King, il y a carrément le petit Satchmo, il y a Louis Armstrong, un deuxième cornet, donc ils sont tous les deux au cornet, et on va entendre un chef-d'œuvre du style New Orleans, c'est un blues qui s'intitule Camp Meeting Blues, Chicago, le 26 octobre 1923. Il y avait une coda.
Et oui.
Il y avait une coda. C'était comme orchestre ce qui se faisait à peu près de mieux dans le genre. Au trombone, on avait Ed Atkins. Au piano, on avait une petite nana qui s'appelait Lillardine et qui faisait les yeux doux au beau Louis. On est en octobre 1923. Et en février 1924, ils se mariaient. Oui, oui. Donc,
il y avait des raisons.
Il y avait des raisons. Et puis, elle va l'aider après dans sa carrière. Au banjo, ben, un banjoiste très connu, très sûr, très bon, très stable, John Saint-Cyr. Et à la batterie, un grand batteur néo-orléanais, Baby Dodds, carrément. Donc voilà un joli morceau, un beau morceau de jazz New Orleans, un blues fantastique. Jimmy Noon a également joué au sein d'une autre formation, c'est celle de Charles Doc Cook. Et dans cette formation se trouvait le cornettiste Freddie Keppard qui avait fait démarrer Jimmy Noon 11 ans auparavant. Et c'est aussi une gloire du style de la Nouvelle-Orléans. Le titre, Moonfall Man. On est à Richmond dans l'Indiana et on est le 21 janvier 1924. On reconnaît bien le style de Jimmy Noon à la clarinette tout de même. Et puis on remarque que tant Jimmy que Freddie Keppard, ils ont un son un petit peu gémissant. Et c'est normal parce que c'est l'homme gémissant, Moonfall Man en fait. Et donc ils essaient de traduire. Oui. Ah ben oui, ils le traduisent musicalement. Le jazz est une musique descriptive, il ne faut pas l'oublier. C'est une musique aussi de rythme. Et on entend le banjo de Stanley Wilson qui marque bien le temps. Et l'orchestre qu'on vient d'entendre, celui de Doc Cook, était l'orchestre d'un célèbre club de Chicago qui s'appelait le Dreamland. En 1928, donc on est 4 ans plus tard, Jimmy Noon dirige un petit orchestre, donc à son nom, il est à son nom. Et ce petit orchestre joue régulièrement dans un club de Chicago qui va bientôt fermer, qui s'appelle l'Apex Club. L'orchestre de Johnny est composé de son ami Joey Doc Postum, encore un docteur, hein, il y avait Doc Cook. Doc Postum, il y en a des docs. Hein, je pense que le jazz soigne bien. Donc les jazzmen sont des docteurs. C'est normal. Donc on a Joey Doc Postum à l'alto, qui parfois joue la clarinette. On a un fabuleux pianiste que doit connaître notre président Alain Réjou, puisqu'il s'agit d'Erlines. Donc je crois qu'il connaît très bien.
Son préféré.
C'est son préféré. Donc on va être augmenté aujourd'hui. Merci. Merci Alain, évidemment, et merci Earls. Je continue mon orchestre. Au banjo, Bud Scott. et à la batterie Johnny Wells. Et voici le premier titre gravé par le Jimmy Nunes Apex Club Orchestra, I Know That You Know, Chicago, le 16 mai 1928. Et on a entendu le prototype de la musique de Jimmy Nunes à la clarinette, hein, avec une musique aérienne, musique de contrepoint. Il prend tous les registres de son biniou, de sa clarinette, des longs traits, des descentes fabuleuses, un son boisé, du vibrato, du Jimmy Nunes. Voilà, hein, le clarinettiste que je veux que l'on retienne aujourd'hui. Il est reconnaissable entre mille, même s'il a influencé d'autres grands clarinettistes comme Barney Bigard ou Darnell Howard, qui joue aussi très boisé, mais ils jouent différemment, et heureusement d'ailleurs, ils jouent tous très bien. On va rester dans la session Vocalion de mai 1928 dans laquelle nous étions, parce que c'est une des meilleures auxquelles a participé Jimmy Nunes. Et on va en profiter pour écouter une autre matrice de cette même session. Un titre, c'est Four or Five Time, 4 ou 5 fois. Et on est à Chicago, toujours le 16 mai 1928. Thank you. Et on a bien sûr reconnu Earlines au piano et Joe Doc Poston qui doublait à l'alto le jeu de Jimmy Noon à la clarinette. Et c'était encore une ration de moelleuse clarinette, really a smooth one comme on dit en Angleterre ou aux États-Unis. Et puis on a entendu aussi Doc Poston et Jimmy Noon qui chantaient de concert, très bien accompagnés par Fazza Hines au piano évidemment. 3 mois plus tard, Jimmy Noon se trouve en trio. Il a gardé Earlines au piano et simplement Bud Scott qui joue de la guitare. Ils interprètent un titre emblématique de notre suave et swingant clarinettiste, un titre qui fait référence au club dans lequel jouait alors Jimmy Noon. Il jouait à l'Apex Club de Chicago, donc ça s'intitule Apex Blues, Chicago, 23 août 1928. C'était donc Apex Blues, un morceau qu'on va dédier à notre ami Marius, notre petit Marius.
Petit Marius.
Et oui, qui est le plus jeune amateur de beau jazz de Limoges, je pense.
On dit le petit, mais il grandit quand même.
Hein, il grandit. Oui, oui, il grandit, et ça se voit. Et puis, il va aimer parce que, comme il a commencé à pratiquer la clarinette, il a entendu un joli morceau de clarinette qui va lui servir de modèle. On attend qu'il nous présente Apex
on
Blues.
Est prêt, oui.
Voilà, dès qu'il est prêt, il nous appelle. On va l'écouter et on l'applaudit et on l'encourage tout de suite. Eh bien, toujours gravé le même jour, donc le 23 août 1928, et profitant qu'Earlines est le pianiste du groupe, Jimmy Noon va aborder une célèbre composition justement de son pianiste de Fazza Hines, une composition que Hines a enregistrée 3 semaines auparavant avec Louis Armstrong. Ça s'intitule, c'est un classique, A Monday Night, Chicago, le 23 août 1928. bien, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'écouter ce morceau d'Earlines, avec Earlines au piano, Jimmy Noon à la clarinette, et le même morceau, A Monday Date, avec Earlines au piano et Louis Armstrong à la trompette, en se mettant bien à l'écoute des parties de piano. Voilà, un petit exercice qui est à faire. Je ramasserai les copies très bientôt, mais on a le temps de le faire. Nous passons à l'année 1929 et Jimmy Noon a modifié son orchestre. Celui-ci se compose de Joe Doc Poston, qui joue toujours de l'alto, de la clarinette, parfois même il prend le ténor. On a un pianiste dans la lignée d'Earlines, mais qui n'est pas Earlines, de beaucoup s'en faut, c'est Alex Hill. On a un guitariste qui est Johnny Cobb et on a un bassiste, mais attention, une basse avant, tenue par Bill Newton, et on va l'entendre. Et le batteur est le même, c'est Johnny Wells. On va écouter une gravure de l'époque, donc Chicago, le 2 mars 1929, I Got Misery. On a bien sûr remarqué un solo de basse avant, la basse avant qui est l'ancêtre de la contrebasse à ficelle. Ça sonne pas pareil. Je soupçonne que les musiciennes fanfares, mais c'est pas anormal quand on écoute du jazz New Orleans parce qu'il y a des brass bands, ben les fanfares, comme les gueules sèches de Limoges par exemple, il y a des basses avant. Et les gars qui jouent de la basse avant vont dire au chef, nous on veut notre solo. On va mettre la révolution dans les fanfares de Limoges, de France et d'ailleurs. Voilà ce que fait Swing FM. Et je rappelle le nom du soliste, parce qu'il n'est pas très connu. C'était son heure de gloire. Il s'appelait Bill Newton. Jimmy Noon, parce qu'on continue avec Jimmy Noon, comme beaucoup de jazzmen, choisit d'enregistrer de nouvelles versions de titres qui ont bien marché, qui ont eu du succès. On va donc écouter à nouveau son titre emblématique, une de ses compositions d'ailleurs, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Et là, je pose une question piège, c'est un blindfold test des plus sérieux. Qui est le pianiste qui joue le titre, facile, Apex Blue, la ville Chicago, la date 11 juillet 1929, Apex Blues. Toujours une basse avant, c'était toujours Bill Newton évidemment. On a retrouvé deux clarinettistes à un moment donné qui jouaient en duo, c'était Jimmy Noon évidemment et Doc Poston. Et puis il y avait un passage de piano par un pianiste qu'on aurait pu penser être Earl Hines. Or c'était pas Earl Hines puisqu'il était parti fonder son propre grand orchestre. Il s'agissait de Zinky Cohn. Et cela avait frappé, la ressemblance entre Zinky Cohn et Earl Hines avait frappé Hugues Panassier, qui avait beaucoup apprécié le jeu de Zinky Cohn. Et il en avait fait un éloge. Et Panassier, pour faire un éloge d'un musicien,
c'est qu'il méritait,
c'est qu'il était bon. Et évidemment, on a encore retrouvé le moelleux du petit black stick, de la petite clarinette de Jimmy Noon. Jimmy Noon enregistre peu finalement, mais il joue beaucoup en club. Et il a toujours aimé organiser de petites formations justement pour jouer en club avec deux instruments à hanches qui jouent à l'unisson. Et puis son partenaire au saxo alto ou à la clarinette chante en duo avec lui. Il a toujours aimé. C'était le cas avec Joe Poston. Et ici, il a embauché Eddie Pollack. Et on va écouter le réjouissant et drôle You Rascal You, Chicago, le 29 juillet 1930. Thank you.
I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead with 6 feet over your head. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I wonder what have you got, you rascal, you. I wonder what have you got, you rascal, you. I wonder what have you got, what you've got a lot. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Long enough, you rascal, you. You had my wife long enough. Ain't you tired of that old stuff? I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You asked my wife for a meal, you rascal, you. You asked my wife for a meal, you rascal, you. You asked my wife for a meal and something else you tried to steal. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. A diamond ring, you rascal, you. Give my wife a diamond ring so that you could shake that thing. I'll be glad when you're dead, you.
Eh bien, nous, on était contents qu'ils jouent tous les deux, hein, Jimmy Noon, et qu'ils chantent Jimmy Noon et Eddie Pollack. On en avait un à la clarinette, l'autre qui jouait de l'alto. Et pour la rythmique, on a retrouvé Johnny Wales à la batterie, William Grier à la guitare et Zinky Cohn au piano. En 1934, je disais qu'il enregistrait peu, donc on passe 4 ans d'un seul coup. Hein. Eh bien, en 1934, Jimmy Noon est toujours à Chicago. Il se trouve à la tête d'un septet constitué en partie de ses compagnons de route, tels Zinky Cohn, le pianiste. Mais il a aussi engagé un trompettiste. Et maintenant, ça va être la règle dans les petites formations de Jimmy Noon. Il y aura un trompettiste. Le premier, c'est Jimmy Cobb. Et voici le très swingant Shine, enregistré le 23 novembre 1934. Thank you. ce morceau, Shine est un grand succès de Louis Armstrong à l'époque, on est en 1934. On a entendu à l'alto Eddie Pollack, hein, qui avait remplacé Doc Poston chez Jimmy Noon. Et c'est une interprétation qui résume parfaitement la manière de jouer de Jimmy Noon, en solo ou à l'accompagnement, avec son art du contrepoint, son goût pour les trilles, son choix du médium, le chalumeau, comme on dit, à la clarinette. Et il avait reçu des leçons d'un clarinettiste classique. Donc, il les a mis en pratique, mais en jouant jazz, évidemment. Hein, ce n'est pas de la musique classique, c'est de la musique improvisée. En 1936, Jimmy Noon transforme son septet. Il a recruté de très, très bons musiciens qui ne sont pas forcément très connus. Le premier d'entre eux, c'est un trompettiste qui va chanter dans le morceau suivant. Il s'appelle Guy Kelly. Au trombone, on a Preston Jackson. Au ténor, on a Frances Whitby. Au piano, un gars de la Nouvelle-Orléans, il n'y a aucun problème là-dessus, en tout cas de la Louisiane, Gideon Honoré, en français dans le texte. À la contrebasse, Israel Crosby, qui est un dernier pilier de la Nouvelle-Orléans, un batteur excellent, Tubby Hall. Et le résultat, ça va donner alors un titre. Je vais demander au professeur de philo, amateur de jazz tout de même, de poser ça comme question à leurs élèves, à leurs étudiants, hein, qui réfléchissent à la question suivante. C'est un disque enregistré à Chicago le 15 janvier 1936 et qui s'intitule, écoutez bien, prenez note, « The Blues Jumped a Rabbit ». On y va.
Run him a solid mile. Ah, the blues jumped the rabbit. Run him a solid mile. Yes, the poor fella lied down and cried like a natural child.
Chose qui est sûre, c'est que tous ces musiciens de Chicago, en jazz, ils venaient bien de la Louisiane tout de même, parce que le chanteur, qui était aussi le trompettiste, Guy Kelly, il a l'accent de la Louisiane, un accent créole, hein, tout à fait, à la Jerry Roll Morton. Et puis, si on entend le tromboniste, il est bien dans ce style-là. Et surtout, si on réécoute, parce qu'on va réécouter en podcast l'émission, comme toujours,
oui,
on va bien réécouter Tubby Hall, le batteur qui est derrière le trombone, et on va se rendre compte des petits roulements typiques du style New Orleans. Voilà.
Oh, quel expert.
Pas du tout, il suffit, j'avais écouté l'émission que je ne sais plus qui avait fait sur The T. Singleton. Il nous l'avait dit, le gars. Donc, c'est la même chose ici. Voilà, c'est de la batterie New Orleans. Pur jus, mais joué à Chicago, évidemment. Tous ces Noirs américains avaient trouvé que le climat était un peu meilleur à Chicago, je dis bien un peu, que dans le sud profond tout de même. Ils étaient un petit peu mieux. Maintenant, eh bien, on va continuer les voyages, puisqu'on est en 1937 et Jimmy Noon va quitter Chicago. Il ne va pas y rester longtemps, en dehors de sa ville. Il est parti à New York. Et à New York, c'est une majeure compagnie. C'est la compagnie Decca qui le fait entrer dans ses studios. Alors, pour la circonstance, Jimmy Noon va s'entourer d'un All-Star, peut-être, quand je dis peut-être, c'est mon point de vue, donc je ne devrais pas dire peut-être, le meilleur orchestre en disque qu'il a eu, évidemment, puisque c'est moi qui le pense, je vais être d'accord avec moi-même. Bon, enfin, les gens diront, ils vont écouter. Et puis alors surtout, cet orchestre est enregistré avec des techniques plus modernes, hein, c'est tout même chez Decca, c'est pas n'importe où. Et je signale aussi que c'est un titre que j'ai toujours aimé quand j'étais un jeune amateur de jazz, il n'y a pas si longtemps que ça, que je tâtais un peu de la clarinette. J'adorais ce morceau. Donc j'ai décidé de le faire passer aujourd'hui, mais il est pour vous, pour tout le monde, pas pour moi. Ça s'intitule Sweet Lorraine. On est à New York le 1er décembre 1937.
Happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, a pair of eyes that are bluer than the summer sky. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun, for it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Each night I pray that nobody steals her heart away. Just can't wait until that happy day when I marry sweet Lorraine.
Que celui qui n'a pas aimé m'appelle, il va m'entendre, hein, il va m'entendre tout de même. Voilà, c'était Sweet Lorraine et je vais donner le nom des musiciens. À la guitare, il y avait Teddy Bunn. À l'alto, Pete Brown. À la trompette, un ravissant Charlie Chevers qui jouait tout en douceur, pas en force, mais qui jouait très bien comme d'habitude. Au piano, Frank Smith. À la contrebasse, tiens, encore un gars de la Nouvelle-Orléans, Wellman Broad. Et un bon batteur qui était capable de battre la mesure, de swinger et de chanter. Il s'agissait de O'Neill Spencer. Et comme j'ai jugé que c'était peut-être le meilleur orchestre de Jimmy Noone, celui-là, hein, c'est moi qui l'ai dit, donc je vais maintenir mon point de vue, que je trouve qu'il a été très bien enregistré. Voici un deuxième titre de la séance, ben quelque chose que l'on connaît bien, Martine, puisque c'est à nouveau « I know that you know, Martine, I know that you know », New York, 1er décembre 1937. T'es pas épuisé parce que là on a dansé ferme là.
Je crois que le rythme était fou. Hein.
Ah, le rythme était fou, oui. Le tempo était plus rapide que sur la première version de I Know That You Know, évidemment. Puis alors, ce qui avait de bien, c'est que chaque musicien est apparu quasiment en solo. Donc vous avez bien tous entendu, y compris le batteur O'Neill Spencer. Eh bien, on va rester à la même séance. Il n'y a aucune raison de bouger de cette séance. On va prendre les mêmes musiciens. On va écouter un blues. Et puis un chef-d'œuvre qui est une reprise d'un titre écouté tout à l'heure. Le premier, c'est un blues, un vrai, c'est Bump It. Donc on est à New York, 1er décembre, j'insiste pas, on est en 37. Et aussitôt, dans la foulée, on va écouter Four or Five Time. J'ai pas dit qu'on l'écoutait 4 ou 5 fois, Martine. On écoute le morceau Four or Five Time.
Merci pour la précision.
Merci, Martine. Thank you. vais commencer par expliquer le premier titre, Bump It. Oui. Parce que quand on danse dans le studio, Martine, qu'on se donne des petits coups de postérieur ou des coups de hanche.
C'est ça le bump.
C'est bump, voilà, c'est ça le bump. Donc voilà, le jazz c'est de la danse, on le répète très très souvent. Et dans le second titre, eh bien, il y avait à nouveau O'Neill Spencer qui chantait. Puis on a entendu Teddy Bunn à la guitare, Charlie Chevers à la trompette, Pete Brown à l'alto. Tous des musiciens qu'on avait écoutés auparavant. De 1937 en décembre à 1940 en juin, il n'y a aucun enregistrement sous le nom de Jimmy Noon. Quand je dis qu'il enregistre peu, il joue beaucoup, il joue en club, il joue pour la danse essentiellement. Il est bien sûr retourné à Chicago, il ne va pas rester à New York toute sa vie, parce que Chicago, c'est son fief. Mais la firme Decca va l'enregistrer à Chicago. Et il le fait enregistrer avec des Louisianais bontains. Il y a un retour d'affection pour le style New Orleans à l'époque. Je rappelle que Hugh Panassi a supervisé des enregistrements à New York en 1938 avec Béchet, Tommy Lanier, Mez Mezro, etc. Et là, on va écouter Jimmy Noon dans la séance du 5 juin 1940. C'est un morceau qui s'intitule « Keystone Blues ». Ce morceau sentait bon le terroir louisianais, Martine, n'est-ce
oui,
pas
oui.
Là, on n'avait que des gars du coin. Avec, on a retrouvé un cornettiste, c'est un cornet à piston, c'était Natty Dominique. Si je dis qu'il n'est pas de la Louisiane, personne ne me croira, donc il est de la Louisiane. Au trombone, on retrouve Preston Jackson, que Gérard a aimé. Gérard me confirme, il fait signe que oui, il confirme, mais oui. Et puis au piano, on a Richard M. Jones. À la guitare, un bon guitariste qui a beaucoup enregistré, qui est Lonnie Johnson. À la contrebasse, eh bien, encore un Louisianais, John Lindsay, d'ailleurs un ancien combattant de 1917-1918, entre parenthèses. Et à la batterie, il y a un autre ancien combattant, Tubby Hall. C'était du jazz authentique, du retour aux sources. Et on va terminer avec une rareté. Alors là, je signale à tous les auditeurs et les auditrices, bien sûr, que Martine prend des gants blancs parce qu'elle va toucher une relique.
Oui.
Elle touche une relique, un collecteur. C'est un des derniers enregistrements de Jimmy Noon qui était parti sur la côte ouest et qui jouait avec Killory, Killory le tromboniste. Je vais laisser le soin à Orson Welles, qui est un véritable amateur de jazz et un promoteur d'émissions appelé à l'époque Orson Welles Radio Almanac, d'annoncer à la fois les musiciens et le titre. On est le 15 mars 1944. Je signale que c'est un LP 33 tours 30 cm qui a été acheté en 1967, magasin Arpège, rue des Combes. N'y allez pas, c'est fermé. Mais on écoute Orson Welles.
We bring you 3 minutes of jazz. Many of you listening have never heard it before. What you've heard are jazz ideas, slicked up by commercial arrangers and jazz musicians. Real jazz is only available on records unless you're willing to go out and look for it and don't mind late hours. It's worth the trouble. The hit tunes, hit arrangements, and hit bands may spoil your ear for it at first, but nobody who's ever made an honest effort to find out about it has ever failed to end up as a jazz enthusiast. The whole thing started in that good time, wide open, all-night carnival city, which was New Orleans before the last war. Jazz bands playing the riverboats carried this new kind of music up to Chicago. From there, it spread all over the world and influenced all popular music and the greater part of what's called serious music. I'm not going to try to explain what it is, but I would like to point out that jazz is art for art's sake, if ever there was such a thing. It's music musicians play for themselves, for their own satisfaction, the way they like it. The men we've gathered in the studio to play jazz tonight are, by general acknowledgement, among the finest instrumentalists on earth. They are the great men of jazz, and their appearance together is a musical event. We bring you now what is probably the only existing jazz band. Experts will recognize these men when they hear them, but I'm proud to list their names. Mutt Carey, trumpet. Kid Ory, trombone. Clarinet, Jimmy Noon. Piano, Buster Wilson. Guitar, Bud Scott. Bass, Ed Garland. Drums, Zooty Singleton. They're going to play High Society. Thank you.
m'excuse un peu du son parce que c'était un disque pirate en fait.
Mais même.
Voilà, mais voilà, c'était aussi un disque historique et c'était un disque qu'avait publié en Europe une entreprise, une compagnie suédoise, Jazz Panorama. Et donc c'est comme ça que ce disque est parti de Suède, est arrivé à Limoges. Et hop, il est parti dans ma discothèque assez rapidement. Et on l'a ressorti aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi remercier Orson Welles parce qu'il a dit au départ ce qu'il fallait dire à propos du jazz. Donc on lui dit « Thank you Mr. Welles ». Il a dit, c'était bien senti, mais c'est un vrai amateur de jazz. Il adorait le jazz, il aimait les jazzmen. Donc, ce n'était pas simplement un grand cinéaste, c'était aussi un amateur et qui payait de sa personne, peut-être même de sa poche d'ailleurs, pour faire jouer tous ses musiciens. Eh bien, l'émission est terminée, hélas, mais chacun d'entre vous maintenant reconnaîtra sans aucun problème Jimmy Noon dès la première mesure, pas la première note, mais la première mesure tout de même. Grâce à son son boisé, moelleux, hein, ses petites clarinettes virevoltantes, vibrato, de la trille, et puis beaucoup d'inspiration dans les contrechamps, donc Jimmy Noon n'a plus de secret pour tout le monde et dans le monde entier. On n'a pas perdu notre temps, j'espère, aujourd'hui, Martine.
Oh, pas du tout.
Merci. Et on peut comprendre aussi pourquoi eh bien, Jimmy Noon était le clarinettiste favori d'Hugues Panassié, même s'il adorait aussi Barney Billard. Je dois dire que je suis assez d'accord avec ça. Ça a été mon premier clarinettiste favori tout de même. Donc je suis ému, même si j'aime aussi Barney Billard.
Clarinettiste averti que tu es.
Pas averti, mais en tout cas amateur, oui, oui. Et amateur de belles clarinettes. C'est pour ça que j'en joue très peu. Et puis, je voudrais souligner, parce que c'est tout même dommage et c'est un regret énorme, mais on n'y peut rien, que ce clarinettiste Jimmy Noon soit mort aussi jeune, en pleine possession de son art. Là, on l'a écouté, il est juste 2 mois avant sa mort.
Mais c'est une mort brutale aussi.
Mort brutale, crise cardiaque, évidemment. Il est mort le 19 mai, je rappelle, 1944. Et on était juste 2 mois avant. Et puis, un signe du destin que je voudrais souligner à la fin de cette émission, c'est que son fils aîné, il a eu des enfants, 4 enfants, si je ne me trompe pas, assez tard. Son fils aîné est né en 1938. Et il jouait aussi de la clarinette. Il s'appelait Jimmy Noon Jr., évidemment. Et il est décédé de quoi ? Eh ben, d'une crise cardiaque.
Bah, aussi.
À quel âge ? 53 ans. C'est pareil. Tout même dommage. Ouais. On va se consoler en écoutant la musique de Jimmy Noon. On peut même écouter celle de Jimmy Noon Jr. Il a fait moins de disques. En tout cas, c'est un hommage à Jimmy Noon.
C'était Swing Time 2021. Et cette émission avait été préparée et vous a été présentée par Alain Charbonnier. Merci Alain pour ce bon moment avec Jimmy Noon.
C'est un joli clarinettiste.
Ah vraiment.
J'espère qu'il valait le coup d'être écouté. En tout cas, je remercie les auditrices et les auditeurs d'écouter cette émission-là et j'espère qu'ils prendront et qu'elles prendront plaisir.
Écoutez et réécoutez.
Et réécoutez en podcast, évidemment.
On se retrouve bientôt.
La prochaine fois, je te le promets.
On s'embrasse.
À bientôt, Martine.